Bonjour à toutes et à tous. Je suis ému et heureux de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Savez-vous qui est Étienne Langton? Peut-être ne le connaissez-vous pas. Pourtant, il a rendu service à chacun d'entre vous, ou du moins je l'espère. Étienne Langton a vécu au XIIIe siècle, il était évêque de Canterbury. En voyage à Paris, il profita de ce déplacement pour mener à bien son projet qui était de diviser en chapitres et versets la Bible. Notre lecture serait plus compliquée sans ses repères. Comment trouver Jean 3,16 ou Ésaïe 53, s'il n'y avait pas de référence? On peut parfois trouver que ce découpage n'est pas très heureux. Il faut s'en plaindre, paraît-il, à la mule d'Étienne Langton, car il travaillait en voyageant sur cette monture parfois peu stable, et la plume de l'évêque pouvait déraper. Dans la plupart de nos Bibles, des titres ont été ajoutés par le traducteur à l'intérieur des chapitres, pour identifier des récits. Tous ces découpages sont très pratiques, mais ils peuvent également contribuer à l'isolement de ces textes les uns par rapport aux autres. J'aimerais ce matin lire plusieurs récits très connus, 5 en tout, qui se suivent pour en souligner le ou les fils conducteurs. En effet, il y a au moins 3 points communs entre chacun de ces récits que nous allons lire. Dans chacun des passages, il y a une ou plusieurs personnes qui veulent s'approcher de Dieu, entrer dans son royaume ou s'approcher physiquement de Jésus. Dans tous les récits, il y a quelqu'un ou quelque chose qui veut empêcher le rapprochement. Et à chaque fois, les auditeurs de Jésus ou les spectateurs de la scène ont des idées bien précises sur ce qui se passe, à tort ou à raison. C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons commencer la lecture dans Luc 18, verset 9. Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Deux personnes veulent donc s'approcher de Dieu. Le premier est un pharisien, c'est-à-dire un homme religieux, soucieux d'appliquer à fond toutes les règles prescrites par la loi de Moïse. Tout le monde connaît ces chefs religieux. Ils occupent une place importante dans la société. Le deuxième est un collecteur d'impôts. Autant dire, un collabo qui pactise avec l'envahisseur romain pour s'enrichir par la force sur le dos de ses compatriotes. En résumé, c'est un traître, un voleur. Qu'est-ce qui empêche le rapprochement? Pour le pharisien, c'est qu'il se croit meilleur que les autres et pense ainsi mériter l'accueil de Dieu. Il n'a pas conscience de ce qui le sépare de Dieu. Qu'est-ce qui empêche le collecteur d'impôts de s'approcher de Dieu? Il a renié son appartenance au peuple de Dieu. Il est riche, mais ses richesses sont mal acquises. La loi de Dieu condamne donc cet homme, et Dieu s'était engagé à punir ceux qui ne respectaient pas sa loi. On trouve ça dans Lévitique, par exemple, Lévitique 26. Cependant, le collecteur d'impôts a bien conscience du péché qui le sépare de Dieu. Il a compris qu'il ne mérite pas l'accueil de Dieu. Comment les auditeurs de Jésus jugeaient-ils ces deux personnes? Jésus raconte précisément cette histoire parce que ses auditeurs se trompaient dans leurs convictions. S'ils avaient assisté à la scène, ils auraient admiré le pharisien et méprisé le collecteur d'impôts, car ils se seraient arrêtés sur ce qui était visible. Jésus précise exprès que les deux prières des hommes sont intérieures. C'est comme si on a l'image sans le son. Si on analyse simplement l'image, on voit un religieux respectable qui semble proche de Dieu. Quant au collecteur d'impôts, il est jugé d'avance. La punition promise par Dieu tardait à venir, mais le croyant juif s'attendait à ce que Dieu fasse justice. Cet homme n'a rien à faire dans le temple. C'est un voleur. Jésus lui-même n'a-t-il pas chassé les voleurs du temple ? Et puis en plus, cet homme vient faire le pitre. Imaginez-vous que vous rentrez dans cette salle et que dans un coin, quelqu'un est en train de se taper la poitrine. Ça fait désordre. Les auditeurs de Jésus, comme la plupart de nos contemporains, ne peuvent pas accepter l'idée que quelqu'un qui a vraiment fait le mal puisse être pardonné par Dieu. Il ne le mérite pas, il est catalogué à vie. Mais l'Éternel regarde ce qui frappe les yeux et l'homme regarde... l'homme regarde ce qui frappe les yeux, c'est l'inverse, merci de rire. Mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus nous invite finalement à uniquement écouter la prière sans s'occuper de l'image. Dans ce cas, tout s'inverse. La première prière nous agresse et la deuxième, nous y adhérons. Jésus affirme avec force que rien n'est figé, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette affirmation va à l'encontre de notre logique humaine qui consiste à croire que pour s'approcher d'un Dieu grand, il faut également être le plus grand possible. Jésus affirme l'inverse et va le prouver. Pour atteindre Dieu, il faut s'abaisser. C'est pour cela que Luc enchaîne directement avec l'accueil des petits enfants par Jésus. Et je continue la lecture. Des gens amènent à Jésus des tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Qui veut s'approcher ? Ce sont des gens qui emmènent des petits enfants à Jésus. Ce sont probablement des mamans, peut-être aussi des papas. Ces personnes veulent s'approcher de Jésus pour qu'il bénisse les enfants, qu'il les touche. Ses parents, on le précise, n'avaient pas encore compris qui était vraiment Jésus, ils ne savaient pas que c'était le Messie. À leurs yeux, Jésus était un rabbi, c'est-à-dire un enseignant, un maître qui apportait un enseignement religieux. Et leur démarche consistait probablement à demander la bénédiction de Dieu sur l'enfant. Qui empêche le rapprochement ? Les disciples. Et cette fois-ci encore, les auditeurs de Jésus se trompent dans leur jugement. À l'époque de Jésus, les petits-enfants sont de manière générale déconsidérés par rapport aux adultes. Les disciples pensent que ces enfants ne sont pas encore concernés par le message de Jésus. C'est donc tout naturellement qu'ils empêchent les enfants d'approcher. Il ne faut pas faire perdre de temps au maître. Mais Jésus saisit justement cette occasion pour apporter son enseignement. Non seulement il invite les petits-enfants à s'approcher de lui, mais il les donne en exemple. Ils servent à illustrer le propos qu'il avait tenu auparavant. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ces petits enfants n'ont aucun mérite à faire valoir pour avoir le droit de s'approcher de Jésus. Au contraire, ces petits enfants symbolisent l'impuissance et la dépendance. Et c'est précisément lorsqu'on reconnaît devant Dieu notre impuissance à pouvoir nous approcher de lui qu'il nous permet de le faire. Troisième récit.
18 à 23.
Alors un notable lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, lui répondit l'homme, « Je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » À ces mots, Jésus lui dit « Il te reste encore une chose à faire. » « Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand il entendit cela, l'autre fut profondément attristé car il était très riche. Là, c'est un homme qui a assisté à la scène avec Jésus et les enfants. C'est un notable, c'est-à-dire un chef juif. Matthieu, dans son évangile, qui rapporte aussi cette histoire, nous apprend que c'était un jeune homme. Lui aussi cherche à s'approcher de Dieu. Il pose la question suivante à Jésus. Comment faire pour obtenir la vie éternelle ? Comment entrer dans ce fameux royaume de Dieu ? Cet homme a reconnu que Jésus n'est pas un maître comme les autres, mais qu'il est un bon maître. Il s'adresse donc à Jésus en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Avant de répondre à cette question, Jésus en pose une autre. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » On a l'impression que Jésus fait un reproche à cet homme. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» En réalité, Jésus ne lui reproche rien, mais il veut le faire réfléchir. Il veut que cet homme se pose des questions et s'approprie les réponses. Quelles sont les différentes réponses que le jeune homme pouvait donner à la question de Jésus ? La réponse qui me vient à moi immédiatement à l'esprit est la suivante. Si Dieu seul est bon, mais que Jésus est bon, donc Jésus est Dieu. Mais le jeune homme ne pouvait cependant pas arriver de lui-même à cette conclusion, même si nous savons que c'est la bonne. La deuxième réponse, si Dieu seul est bon et que Jésus n'est pas Dieu, Jésus a beau faire tout le bien possible, accueillir les enfants, faire plein de choses super, il n'est pas bon, il n'est pas Dieu. Voilà la réponse que pouvait avoir l'homme. Ce récit, qui est également rapporté dans Matthieu 19, la question et la réponse sont légèrement différentes. Le mot « bon » n'est pas placé au même endroit. Et ça donne ça, maître, que dois-je faire de bon ? Au lieu que dois-je faire, c'est que dois-je faire de bon ? Et il dit pas bon maître, mais il dit que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. Et Jésus répond, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Donc on voit que le mot bon est placé à différents endroits, mais finalement, Jésus donne la même réponse et on comprend la même chose. Voilà donc un homme qui veut entrer dans le royaume de Dieu, s'approcher de Dieu, en faisant ce qui est bon, en faisant des choses, en faisant ce qui est bon, en faisant le bien. Ce jeune homme pense que faire le bien suffit pour recevoir la vie éternelle. Que dois-je faire de bon ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire de bon ? Mais il ne sait pas jusqu'où il est nécessaire d'aller dans cette pratique du bien. Quand Jésus lui cite une partie des 10 commandements, 5 sur 10, l'homme répond « Tout cela, je l'ai fait, je l'ai appliqué dès ma jeunesse ». Cet homme fait probablement le bien, mais cela ne suffit pas. Il ne peut être bon. Contrairement aux pharisiens de la première histoire que nous avons vue, ce jeune homme pressent que cela ne suffit pas. Que lui manque-t-il pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et recevoir la vie éternelle ? Si nous revenons quelques pages en arrière dans notre Bible, dans Luc 10, on voit que quelqu'un d'autre a déjà posé cette question à Jésus. Luc 10, 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Il y a deux différences fondamentales avec le texte de Luc 18. L'enseignant de la loi est venu avec de mauvaises intentions, mais il donne la bonne réponse. Le jeune homme riche vient sans mauvaises intentions, mais il donne une mauvaise réponse. Ou plutôt, il ne réagit pas à ce qui semble être une mauvaise réponse de Jésus. En effet, on est très surpris de la réponse de Jésus. Cette réponse ressemblerait plus à celle qu'on entendrait dans la rue si on interrogeait Monsieur Tout-le-Monde. On a l'habitude d'entendre ça. Moi, je suis bon. J'ai tué personne, j'ai volé personne. Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu ça. Cela suffit-il à avoir la vie éternelle ? Cette réponse est très différente de la bonne réponse donnée par l'enseignant de la loi. Pourquoi donc Jésus donne-t-il cette drôle de réponse ? Regardons-la d'un peu plus près. Luc 18, 20. Tu connais les commandements ? Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cet homme devait connaître par cœur les 10 commandements. C'est donc très étonnant qu'il ne complète pas la liste que Jésus donne. Il manque les 4 premiers et le dernier. Il manque, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne travailleras pas le jour du sabbat. C'est un jour consacré à l'Éternel. Et il manque, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, aussi le 10e commandement. Mais dans la réalité, dans l'évangile de Marc, on voit que Jésus fait allusion à ce 10e commandement parce qu'il dit « Ne fais de tort à personne. Or, convoiter le bien de son prochain revient à lui faire du tort. » Donc pour résumer tout ça, il manque uniquement les quatre premiers commandements dans la réponse de Jésus. Jésus ne peut pas se tromper quand il dit ça. Mais il sépare volontairement en deux parties ces 10 commandements. La première partie définit la relation entre un individu et Dieu, commandement 1 à 4. On pourrait presque remplacer par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », si on compare avec la réponse qu'a apportée l'enseignant de la loi. La deuxième partie, les commandements 5 à 10, définit la relation entre les individus. On pourrait presque les remplacer par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On peut les résumer comme ça. Si Jésus ne cite pas la première partie des commandements, c'est qu'il y a une bonne raison. Quelque chose est en train de changer. C'est la présence de Jésus. Dorénavant, le lien entre Dieu et les hommes, il ne faut plus le chercher du côté de la loi, il faut le chercher du côté de Jésus. C'est pourquoi Jésus invite l'homme à le suivre. Jésus lui dit « Viens et suis-moi ». Il invite cet homme à devenir son disciple, comme il avait invité Pierre et André à le suivre. Et ces derniers avaient aussitôt laissé leur filet de pêcheurs et étaient venus suivre Jésus. Exactement de la même manière, cet homme est invité à laisser son ancienne vie et à suivre Jésus. Cependant, il lui en coûtait beaucoup plus à cet homme, car il devait laisser plus que des filets de pêche. Marc, dans son évangile qui raconte aussi cet épisode, nous donne un détail assez important. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Un regard plein d'amour. L'amour, n'était-ce pas cela précisément qui manquait à ce jeune homme ? L'homme ne doit pas faire simplement du bien, mais il doit aimer Dieu et son prochain. C'est ce que Jésus voulait lui apprendre. Cet homme était prêt à faire beaucoup d'efforts pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais devenir petit, dépendant comme un enfant, est trop demandé à cet homme riche, qui occupe une place élevée dans la société. Il aime ses richesses plus que Dieu. Et il s'en va, tout triste. À ce moment-là, Jésus fait une nouvelle déclaration qui a l'effet d'une bombe. Parce que cette fois-ci encore, les auditeurs de Jésus avaient mal jugé la situation. On reprend la lecture au verset 24. Quand il entendit cela, l'autre fut profondément attristé car il était très riche. Non, le jeune homme. Quand il entendit cela, l'autre fut profondément attristé car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les auditeurs s'écrièrent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alors Pierre lui fit remarquer « Et nous ? Nous avons tout abandonné, tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit « Vraiment, je vous l'assure, quiconque quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens et on se moquera de lui. On l'insultera, on crachera sur lui et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour bien comprendre le choc qu'ont dû ressentir les disciples, il faut un peu nous replonger dans l'Ancien Testament. Dieu avait promis de punir ceux qui n'obéissaient pas à sa loi. Nous l'avons évoqué avec le collecteur d'impôts. Mais il avait aussi promis de bénir ceux qui obéissaient à ses lois. Les auditeurs de Jésus pensent donc que la richesse est une bénédiction de Dieu, sauf si elle est mal acquise. Dans le récit de ce matin, le jeune homme semble avoir acquis ses richesses sans faire de tort à personne. Aux yeux de ses contemporains, il est béni par Dieu. Quand Jésus affirme qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples sont consternés. Ils se posent la question suivante. Comment un homme béni par Dieu peut-il ne pas entrer dans son royaume ? C'est pourquoi les auditeurs de Jésus s'écrient « Mais alors, qui peut être sauvé ?» C'est la panique à bord. Si ce riche béni par Dieu n'est pas sauvé, qui peut l'être ? Toutes les certitudes s'effondrent. La réponse de Jésus est magnifique. Elle est simple et magnifique. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus ne dit pas ce qui est impossible aux riches est possible à Dieu. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus étend ses propos à tous les hommes. Les auditeurs de Jésus venaient de prendre conscience que eux aussi, c'était impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. Si c'était impossible pour le riche, pour eux aussi, c'était impossible. Et nous, nous pouvons nous joindre à eux et reconnaître que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous approcher de Dieu. Jésus est le seul moyen pour un homme pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'est justement pour cela qu'il est venu. Et Jésus profite de cette occasion pour expliquer à ses disciples que c'est le but de sa mission. Au début, je me suis toujours dit « qu'est-ce que ça vient faire là, ce passage ? Ça n'a rien à voir avec le reste. » Ben si, c'est vraiment le cœur. Il explique qu'il est venu pour mourir, revenir à la vie. Mais encore une fois, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus veut dire. Ils attendaient un Messie roi, et Jésus est un Messie serviteur. Jésus est l'exemple parfait de celui qui s'abaisse lorsqu'il a accepté de venir mourir à notre place et souffrir. Mais Jésus-Christ est aussi ressuscité, et Dieu le Père l'a de nouveau élevé au-dessus de tout. Petite anecdote personnelle. J'ai passé mon bac en 1994. L'épreuve de mathématiques durait 3 heures. Il y avait 3 exercices, probabilité, statistique, études de fonction. J'ai choisi de commencer par les statistiques. J'avais commencé et j'étais très confiant. Mais au bout de 45 minutes, j'ai eu un doute et j'ai relu l'énoncé. Je n'avais pas vu une petite subtilité et tout ce que j'avais fait était faux. Je devais tout recommencer. Franchement, j'ai paniqué. Je devais vraiment tout recommencer, j'avais beaucoup moins de temps. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ce matin ? Tout simplement pour essayer de se glisser un tout petit peu dans la peau des disciples. Jésus est sans arrêt en train de bousculer leur certitude. Les disciples veulent empêcher les enfants d'approcher, Jésus leur commande l'inverse. Les disciples sont sûrs que l'homme riche, béni de Dieu, sera le premier à rentrer dans son royaume. Jésus dit que c'est impossible. Les disciples ont des certitudes sur le Messie. Il vient délivrer les Juifs de l'envahisseur romain. Et ils ne comprennent pas quand Jésus dit qu'il va souffrir. Je suis convaincu que, comme les disciples, j'ai moi aussi de mauvaises certitudes. Nous avons aussi de mauvaises certitudes. On n'est pas tellement différents de ces disciples. Même si on a la Bible et les évangiles qui nous expliquent plein de choses, on n'est pas tellement différents dans notre nature. Nous avons besoin, comme les disciples, que Jésus rectifie nos certitudes, nos raisonnements humains. Je ne possède pas la vérité. Jésus seul est la vérité. Je dois constamment être à son écoute et être prêt à revoir mes certitudes. Les disciples perdent leur repère. Ils ont besoin d'être rassurés. Et on comprend beaucoup mieux la question de Pierre. Et nous ? Nous avons abandonné tout pour te suivre. Qu'est-ce qui se passe avec nous alors ? On peut rentrer dans ton royaume ? La réponse de Jésus est rassurante. Jésus n'affirme pas ici que tous doivent toujours tout quitter pour le suivre. Il faut cependant y être prêt et le faire le cas échéant. Choisir de suivre Jésus, c'est toujours le bon choix. C'est ce que Jésus affirme, même si ça coûte tout le reste. Nous savons bien qu'aujourd'hui, dans certains contextes, si quelqu'un se déclare pour Jésus, il va être rejeté par sa famille, ses amis et la société tout entière. Il sera discriminé, voire persécuté. Mais Jésus promet que malgré les apparences, il fait le bon choix. Mais choisir, c'est renoncer. On ne peut en même temps choisir de suivre Jésus et quelqu'un d'autre. Quatrième texte, Luc 18, 35-43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Dans ce récit, c'est un aveugle qui veut s'approcher de Jésus. Et qu'est-ce qui empêche le rapprochement? Premièrement, c'est le handicap. S'il n'était pas aveugle, il pourrait suivre Jésus comme tout le monde. Et deuxièmement, c'est les gens qui marchent avec Jésus. L'aveugle crie très fort pour interpeller Jésus, mais ceux qui sont en tête du cortège, lui font des reproches pour le faire taire. Une fois de plus, ceux qui étaient présents se sont trompés dans leur analyse de la situation. Cette fois-ci encore, Jésus doit intervenir et demande qu'on lui amène l'aveugle. Nous sommes bien, encore une fois, en présence d'un individu qui est abaissé par la société et que Jésus va élever. Cet aveugle est rejeté par la foule qui passe. Mais pourquoi donc? Petite piste. À une autre occasion, les disciples de Jésus avaient posé cette question. Si un bébé naît aveugle, est-ce que c'est à cause de son propre péché ou à cause de celui de ses parents? Question surprenante. Il s'agit d'une croyance populaire qui consiste à dire que le handicap ou la maladie sont des punitions de Dieu pour un péché caché. Les personnes qui veulent empêcher l'aveugle de s'approcher de Jésus suspectent donc le mal en voyant l'aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là pour mériter ça ? Considère que l'aveugle est puni de Dieu. Jésus rejette totalement cette idée. Mais la croyance, nous la trouvons encore aujourd'hui. Petit exemple, ça va faire rire mes frères et sœurs. Ma grand-mère paternelle est morte à presque 100 ans. Les dernières années de sa vie, elle ne pouvait plus marcher parce qu'elle avait des problèmes de genoux. Chaque fois que j'allais lui rendre visite, elle me disait, je vois Étienne qui rigole, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Elle a des problèmes de genoux, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Comme si elle avait fait un péché, que Dieu la punissait et lui donnait des gros genoux. Cette question est très culpabilisante. Et l'on ne peut bien sûr jamais trouver la réponse puisqu'elle n'existe pas. La maladie, le handicap sont effectivement des conséquences de la séparation de l'humanité avec Dieu. Mais elles ne sont pas des punitions individuelles de Dieu. Nous ne sommes pas encore au ciel, où il n'y aura plus de souffrance, on aura des corps transformés, on se rapproche de Dieu, voilà, tout ça disparaîtra. Mais en attendant, le handicap, la maladie font partie de notre condition humaine. Ce n'est pas une fatalité, et Jésus est venu se charger de nos souffrances, de nos maladies, Ésaïe 53. Et Dieu appelle aussi, et j'ose même dire surtout, ceux qui souffrent. On a des fois les oreilles plus ouvertes quand on souffre à la voix de Dieu. Il veut également avoir une relation avec ces personnes, les sauver, les bénir malgré le handicap ou la maladie. Il y a quelques années, notre sœur Raymonde, Joseph, avait donné son témoignage. Elle avait dit cette phrase qui m'a marqué, et je la garderai même quand tu seras en Normandie, Raymonde. Tu avais dit « Je préfère boiter avec le Seigneur que de courir avec le diable. » Et d'après ce que tu as dit ce matin, c'est encore toujours valable. Hein ? Oui. Mais revenons à notre aveugle. Nous retrouvons des similitudes très fortes avec le récit précédent. Les petits-enfants voulaient approcher Jésus et l'aveugle veut approcher Jésus. Dans les deux cas, ce sont des personnes les plus proches de Jésus qui empêchent cela. Pour les enfants, ce sont les disciples, et pour l'aveugle, ce sont les personnes qui marchent en tête du cortège. Et cela doit naturellement nous questionner. Je m'identifie facilement au papa qui vient amener son enfant à Jésus. Je m'identifie facilement aux gens qui marchent dans la foule avec plaisir autour de Jésus. Mais je suis disciple du Seigneur. Est-ce que je m'identifie à eux en disant « je peux aussi empêcher des personnes d'approcher le Seigneur » Est-ce que je m'identifie à ceux qui marchent en tête du cortège et qui remballent cet aveugle? Il faut bien avouer que ma façon de voir les personnes qui m'entourent n'est pas toujours la bonne. Comment est-ce que j'accueille les personnes qui viennent au culte? Il faut bien avouer que j'ai tendance à accueillir quelqu'un qui me ressemble au moins un peu et que j'ai plus de mal avec quelqu'un qui me de foncièrement différent. Mais l'ordre de Jésus est universel. Laissez venir, amenez-moi. Jésus nous demande d'accueillir celui qui ne nous ressemble pas, de sortir de nos jugements souvent trop rapides. Nous devons nous aussi apprendre à regarder non pas ce qui frappe les yeux, mais ce qu'il y a dans le cœur. La soif qu'une personne peut avoir de rencontrer Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, il n'a pas cessé d'aller à la rencontre et d'accueillir les exclus, les oubliés, les impurs, les petits, les derniers, les différents, les étrangers. Et nous devons imiter Jésus et être prêts à voir notre Église se remplir de personnes différentes de nous, qui ne nous ressemblent pas. Est-ce qu'on est prêt ? Le message de Jésus est universel, ne concerne pas qu'une petite partie de la population. Mais notre Église n'a pas attendu le message de ce matin pour être sensible à l'importance de l'accueil. Merci Seigneur, c'est une joie. Et j'aimerais aussi vous partager la joie qui est la mienne, de savoir que nos bâtiments vont être transformés et adaptés pour mieux accueillir les personnes qui viendront, et en particulier celles à mobilité réduite. Pendant un an et demi, cela va nous demander à tous des efforts d'adaptation. Certaines salles seront condamnées. Il sera encore plus difficile de trouver une place de stationnement. Il faudra se serrer les coudes et accepter de perdre en confort pendant cette période. Mais le résultat en vaut la peine. Notre bâtiment sera adapté pour accueillir et valoriser les personnes fragiles. Et c'est la réalité de l'Évangile que nous voulons vivre en tant qu'Assemblée. Dernier petit texte, il sera court, rassurez-vous. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus est parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur !» Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent ?» À quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Alors Jésus dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » C'est Zachée qui veut s'approcher physiquement de Jésus, voir qui c'est. Qu'est-ce qui empêche? Alors à lui seul, Zachée, il résume tous les récits précédents. Il est collecteur d'impôts, et même le chef des collecteurs d'impôts. Il est petit par sa taille, aussi petit qu'un enfant peut-être, je ne sais pas. Il est riche comme le jeune homme, mais en plus ses richesses sont mal acquises. Il a pactisé avec les Romains. Il aimerait voir Jésus, mais il ne le peut pas, comme l'aveugle. C'est sa taille qui est un handicap pour lui. À vue humaine, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à Zachée de rentrer dans le royaume de Dieu. S'il y en a un qui ne pouvait pas rentrer, c'était lui. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Zachée ne s'est pas accroché à sa situation présente. Il se comporte comme un enfant, dans le seul but de voir Jésus. En effet, il court comme un enfant. Cela ne se faisait pas à l'époque pour un adulte respectable de courir. Les enfants, oui, mais pas les grandes personnes. Il monte dans un arbre comme un enfant. Jésus n'avait-il pas dit qu'il faut ressembler à un enfant pour entrer dans son royaume? Personnellement, cet épisode me parle vraiment. Zachée monte dans un arbre, il est physiquement en hauteur, mais les gens devaient se dire, il est tombé bien bas ce Zachée, hein, c'est la honte. Zachée, il a mis son amour propre de côté, Son seul but, c'est de voir Jésus. Et Jésus s'arrête, il appelle Zachée, lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois loger aujourd'hui. » En faisant descendre physiquement Zachée de l'arbre, et en l'invitant, ou plutôt en se faisant inviter chez lui, Jésus élève Zachée devant tout le monde. Zachée abandonne son ancienne vie, il veut suivre Jésus. Et Zachée dit, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Alors là, moi, je suis scotché par cette phrase. On se demande quand il a eu le temps de faire cette distribution, il vient juste de rencontrer Jésus. Le changement est rapide, radical, c'est ce que ce texte veut illustrer. Jésus dit à Zachée qu'il est aussi un fils d'Abraham. Cette phrase, elle a l'air de rien. Mais si on l'attache à ce que j'ai dit avant du collecteur d'impôts qui avait renié le peuple, on voit que Jésus réintègre Zachée dans le peuple de Dieu. Il accepte de nouveau ce traître. Et c'est finalement Zachée qui a répondu positivement à l'invitation que Jésus avait lancée au jeune homme riche. « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » C'est exactement la réponse de Zachée. C'est lui, le riche, celui qui était impossible à vue humaine de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui va y rentrer parce que c'est possible à Dieu et que Zachée s'est conduit comme un enfant. Il a regardé Jésus et il a laissé tout le reste. Ma conclusion de ce matin, chacun d'entre nous dans cette salle, on peut être dans l'une des situations suivantes. Peut-être, tu ne sais pas trop pourquoi tu es là ce matin, à ce culte. Dans ce cas, je t'invite à lire les évangiles et à prendre connaissance du message de Jésus-Christ. Parce que si tu veux choisir, il faut le faire en connaissance de cause. Peut-être que tu es ici en pensant que tu n'es pas si mauvais, ou au moins pas pire que les autres. C'est sûrement vrai, mais cela ne suffit pas pour pouvoir s'approcher de Dieu et être en paix avec lui. Peut-être que tu as compris que Jésus est le seul chemin qui conduit à Dieu, et tu as envie de lui confier ta vie. Mais quelque chose t'en empêche. Une passion? Ou alors tu sais que tu devras changer certaines habitudes, et tu n'y es pas prêt? Quel que soit le coût de ce que tu dois abandonner, et contrairement aux apparences, Jésus nous affirme que tu fais le bon choix si tu te décides à le suivre. Peut-être que tu veux lui confier ta vie, mais c'est quelqu'un qui t'en empêche. Tu as été blessé par la parole ou l'attitude d'un chrétien, comme les disciples qui avaient empêché des personnes de venir auprès de Jésus. Dans ce cas-là, regarde à Jésus, c'est lui l'original. Un chrétien n'est qu'une copie imparfaite. Et Jésus te dit, viens et suis-moi. Peut-être que tu as déjà fait le choix de suivre Jésus et que tu as conscience de ce qu'il faut encore changer dans ta vie pour ressembler davantage à Jésus. Alors persévère, ça vaut la peine. Peut-être que tu as fait le choix de suivre Jésus et que tu ne vois pas encore ce qu'il y a à changer dans ta vie. Peut-être même que tu te dis, ça fait tellement d'années que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai plus grand-chose à changer. Mais nous ne serons parfaits que lorsque nous serons avec Jésus dans son royaume. Ici-bas, nous aurons toujours, toujours, toujours des progrès à faire. Et peut-être que tu es comme moi. Tu connais des domaines dans lesquels tu as des progrès à faire, et tu sais qu'il en reste d'autres dont tu n'as pas conscience. Alors prions le Seigneur de nous montrer ce qu'il faut encore changer pour lui ressembler davantage. Mais il faut faire attention si on fait cette prière, parce que Jésus va y répondre. Et on risque de tomber de haut. Cependant, ça en vaut la peine, parce que c'est Jésus lui-même qui veut nous relever. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Merci de votre attention.